Artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
Bonsoir à tous, très content de vous retrouver comme chaque vendredi soir. C'est l'émission Scène Ouverte, l'émission culturelle. Comme vous êtes habitués, tous les vendredis soirs, nous recevons des personnalités dans le domaine musical, théâtral, tout ce qui est culturel. Et ce soir, nous avons la chance, nous recevons, c'est une conférencière, une enseignante, une concertiste, une chef de chœur, une musicologue. Et elle est avec nous tout au long de cette émission, c'est Catherine Hérault. Bonsoir.
Bonsoir Stéphane, merci de m'inviter. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui.
Bah, tout à fait normal de recevoir des artistes qui sont proches de chez nous. On va découvrir un petit peu tout ce que vous faites. Vous faites beaucoup de choses en tant que musicologue. Musicologue, ça veut dire beaucoup de choses, je crois, c'est ça ?
Tout à fait. J'ai une carrière multiple. J'ai beaucoup de chance d'avoir pu œuvrer dans tous les domaines de la musique. Évidemment, j'ai eu une formation très, très poussée. Au début, c'est le conservatoire, bien sûr. Hein. C'est incontournable pour tout musicien. Donc, j'étais à Bordeaux. J'ai fait tout le conservatoire de Bordeaux. Classe de chant, classe de harpe, solfège, bien évidemment. Et puis après, le travail, c'est un de mes piliers qui a orienté toute ma vie parce que la musique, c'est l'exigence absolue. C'est un petit peu comme la danse. Quand on est tombé dedans tout petit, on est exigeant envers soi-même, exigeant aussi envers les autres. Hein. C'est peut-être aussi une qualité ou un défaut. En tout cas, j'ai deux passions dans la vie. Ce sont mes enfants, mes petits-enfants. Et la musique.
Alors, ce soir, donc, on va vous parler de plein de choses. Vous avez même sorti un livre récemment, un premier livre qui s'appelle Jean de Lattre, un livre que vous avez écrit, qu'on vous présentera tout à l'heure. Mais avant de présenter ce livre, c'est vrai qu'en tant que musicologue, il y a sept piliers quand même intéressants à découvrir avec vous ce soir. Les différents piliers, on va vous les présenter au fur et à mesure de l'émission. Bien sûr, aussi, vous aurez des extraits de musique par rapport à ce que vous faites. Alors, les sept piliers, c'est quoi ? Expliquez-nous un petit peu les différents piliers, les sept piliers, et ensuite on rentrera dans le sujet.
Alors d'abord, pourquoi sept ?
Oui, pourquoi sept ? Oui.
Voilà, tout simplement. Parce qu'il y a sept notes à la base, depuis Pythagore.
Hein. D'accord.
Tout simplement, do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'on appelle comme ça uniquement en France. Hein. Vous savez que depuis l'Antiquité, en fait, le nom des notes, ce sont les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G. Voilà, et donc sept piliers, parce que le nombre 7 fait partie justement de cette symbolique du quadrivium que Pythagore a institué, arithmétique, astronomie, géométrie et musique. Tout ça ne font qu'un jusqu'au XVIe siècle, la période justement de Jean de Lattre, le grand compositeur sur lequel je viens d'écrire cet ouvrage. Et donc les sept piliers, ce sont ma famille, le travail, la recherche, la pédagogie, la transmission, le rayonnement, l'engagement. Alors bon, peut-être pas dans cet ordre-là, on va les décliner aujourd'hui, peu importe, mais c'est effectivement les sept piliers sur lesquels j'ai construit ma vie et j'en suis très heureuse.
En fait, si on se repère aux sept sept péchés capitaux aussi, c'est peut-être ça.
Ah ben le nombre 7, il est partout, les 7 jours de la semaine.
Les 7 nains.
Voilà, c'est la symbolique, c'est une parabole, le 7, le nombre 7. Hein. C'est donc très important. Je pense que, effectivement, je suis aussi spécialiste des symbolismes. À l'époque de la Renaissance, le secret est partout. Il est dans l'architecture, la peinture, la littérature et la musique. Ouais. Donc l'importance des symboles, c'est mon quotidien.
Voilà, donc on va vous présenter donc tout ceci dans cette émission culturelle, émission Scène Ouverte. Alors, mais avant de présenter ces piliers, musicologue, ça veut dire quoi exactement ? La définition pour vous, c'est quoi ?
Alors, effectivement, quand je dis que je suis musicologue, les gens ouvrent de grands yeux comme ça. Archéologue, ils savent ce que ça veut dire. Mais musicologue, on ne sait pas. Alors, c'est en gros une archéologue de la musique, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que je suis historienne de la musique, comme je viens de vous le dire. Ma passion, c'est la recherche dans l'écriture même de la musique. C'est-à-dire, qu'est-ce que le compositeur qui, lui, s'exprime avec ses notes, a voulu dire. On voit très bien, si on regarde un tableau, comment le peintre a voulu exprimer ses émotions, ses sentiments, sa vision du monde. Eh bien, en musique, c'est la même chose. Comment un compositeur, à une époque donnée, a voulu exprimer ce qu'il ressentait. Et ça, c'est dans la façon d'organiser les sons. C'est ça, être musicologue, c'est comprendre pourquoi le compositeur a voulu organiser les sons de cette façon-là, dans le contexte sociologique et historique qu'il connaît, et dans les influences qu'il peut recevoir. Et donc, c'est arriver à décrypter un petit peu une plus grande connaissance de cet artiste. Et donc, c'est facile pour les arts visuels, enfin, ça nous semble plus facile. La musique est un art qui s'inscrit dans le temps. Et donc, c'est ça qui est difficile, en fait. C'est de se servir à la fois de ses sens auditifs, bien sûr, mais de ses sens visuels, parce que dans l'écriture, il y a des choses extraordinaires à percevoir.
Alors, dans l'écriture, comme vous le dites, donc, la musique va aboutir sur la famille.
Alors, la famille, ben oui, parce que j'ai deux passions. La musique et mes enfants. Voilà. Et mes petits-enfants aujourd'hui, bien sûr. Voilà. Ma priorité, c'est bien sûr mes enfants, mes petits-enfants. Mais mes enfants m'ont accompagnée tout au long de ce chemin, depuis leur naissance. Mes enfants ont fait des spectacles. Moi, j'ai dirigé sur des grandes scènes de théâtre et d'opéra. J'ai dirigé des opéras, j'ai dirigé des comédies musicales, j'ai créé des spectacles, j'ai écrit à la fois le texte, j'ai composé. Enfin, j'ai eu une belle carrière et à chaque fois, mes enfants ont toujours été sur scène avec moi et continuent. Mmh. J'ai un fils qui est auteur, compositeur, interprète, entre autres, bien qu'étant ingénieur.
Ouais.
Vous voyez, bon, lui aussi, il mène les deux carrières de front.
Et auteur, compositeur, interprète, dans quel domaine ?
Alors lui, c'est plutôt le pop-rock. Hein.
Pop-rock, ah
oui. Oui, quand même. Voilà.
D'accord.
Il vit avec son temps, mais c'est très bien.
Il est de la région ?
Ce moment il travaille au Chili, depuis 4 ans, parce qu'il est responsable dans l'agroalimentaire, en recherche et développement. Ce sont des chercheurs aussi, mes enfants.
Donc vous avez une famille musicale?
Alors j'ai la chance d'avoir des enfants musiciens, des petits-enfants musiciens aujourd'hui, et voilà, je suis ravie.
Donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, vous avez fait donc des comédies musicales, de l'opéra, de tout ça,
oui,
c'est intéressant.
Oui, j'ai une très longue carrière. C'est pour ça que le peu de temps qui nous est imparti, je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder mon livre si on parle trop de moi. Donc, on va peut-être passer un petit extrait d'abord de cette période de la Renaissance qui m'a tant habité depuis de très longues années. Donc, un court extrait, si vous le voulez bien, d'une musique de Pierre Attégnan, qui est à la fois compositeur, mais surtout connu comme éditeur parisien au XVIe siècle. C'est une pièce pour luth, une pièce instrumentale pour luth et flûte qui s'intitule Sancerre.
Thank you.
Voilà le premier titre choisi par notre invité de ce soir, la musicologue Catherine Hérault, qui est avec nous ce soir. Alors, donc, on va continuer. On a parlé de la famille, on a parlé du travail. Alors, le travail, c'est quoi pour vous?
Le travail, c'est beaucoup. C'est beaucoup. D'abord, c'est très important. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait redonner ces lettres de noblesse au travail. Parce que l'effort dans la durée, ça donne, ça valorise l'individu. Et je crois qu'il y a peu de disciplines comme ça. Il y a le sport, bien sûr, mais il y a tous les arts comme la danse, la musique, la pratique artistique est indispensable à l'équilibre de l'individu. Moi, j'en suis convaincue. C'est évidemment un travail de longue haleine. Alors, il y a eu le conservatoire, comme je l'ai dit. Il y a eu, bien sûr, le bac musique. Il y a eu l'université à Tours. Et donc, c'est peut-être parce que j'étais à Tours et cet environnement extraordinaire des châteaux de la Loire, cette ville extraordinaire où le cœur de ville a gardé ses maisons à colombage Renaissance, que je me suis passionnée pour cette période-là. Et puis parce que j'ai eu un mentor extraordinaire qui s'appelait Jean-Michel Vaccaro, qui était un grand humaniste et qui m'a transmis cette passion de la musique de la Renaissance, puisque j'ai continué ensuite une maîtrise au Centre d'études supérieures de la Renaissance. Puis, à l'époque, ça n'existait pas, le doctorat en musicologie, il fallait aller à Paris pour aller passer un doctorat. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis allée à l'École normale supérieure de Paris. Oui, quand même. Voilà.
C'est ah oui.
Oui, oui, c'est quand même normal sup. Hein. Voilà. Et il faut le faire. Voilà. Donc, voilà, je prenais le train et j'ai fait ma thèse là-dessus. Voilà.
Et vous avez quitté donc les cours à quel âge?
Oh, on n'arrête jamais.
On n'arrête jamais.
Ouais. Non, non. La recherche, on n'arrête jamais. Hein. Ah non. Ah non, moi je suis curieuse de tout, je vais aux universités du troisième âge écouter des conférences, je vais, voilà, parce que, je vais, voilà, il y a, vous savez, on n'a jamais fini d'apprendre. Moi je crois beaucoup au progrès, je crois, je suis humaniste convaincue, je crois que l'homme est capable de progrès, on est capable de se perfectionner, et c'est ça qui donne tout le sel de la vie, parce que, enfin, quoi de plus triste que de se contenter que de ce que l'on sait. Non, je suis curieuse de tout, ouais. Absolument de tout, et pas que de musique.
Et au niveau musique, vous êtes choriste aussi, je crois, non?
Ah, je suis chef de chœur.
Chef de chœur,
oui. Oui, voilà, je suis chef de chœur. J'ai créé de nombreux ensembles vocaux dans la région. Ouais. J'en ai créé 5.
D'accord.
Voilà, que j'ai dirigé, avec lesquels j'ai fait tous les répertoires. Alors, selon les ensembles vocaux, c'est soit des grandes formations, où là, je fais plutôt des œuvres de la Renaissance à aujourd'hui, en passant par les grands classiques, Mozart, Handel, Vivaldi, etc. Œuvres pour chœur, orchestre. Que j'ai dirigé. J'ai dirigé, par exemple, Didon aîné de Purcell pour chœur, orchestre, soliste et ballet, que j'ai donné à Niort, à Royan, à Bordeaux, un peu partout.
D'accord.
Voilà, j'ai dirigé le Requiem de Mozart, la même chose, voilà, pour chœur, orchestre, soliste. Voilà, j'ai fait également des comédies musicales sur la scène du CAC, par exemple, au Moulin du Roc.
À Niort.
À Niort, mm-hmm. Voilà. J'ai donc créé plusieurs comédies musicales, Raconte-moi la mère, ambiance, etc., comédie en ut Mozart. J'ai collaboré avec voilà, des grands noms. J'ai collaboré également avec l'Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. J'ai fait Le Roi David d'Arthur Honegger avec l'Orchestre de Bordeaux-Aquitaine, le Gloria de Vivaldi aussi, voilà, en tant que chef de chœur. J'ai été sollicitée par Henri Fouquier au Francofolie de La Rochelle comme chef de chœur pour me produire sur scène avec Léo Ferré. Voilà, en 87, j'étais toute jeune chef de chœur et d'orchestre. Et en fait, Fouquier cherchait quelqu'un au pied levé, comme ça, pour faire les chœurs en live sur la scène des Franco. Et donc, on a eu 4 jours pour répéter avec Léo. avec mes choristes et moi-même. Et voilà, ça a été un grand, grand moment de ma vie, ça. Parce que, en fait, Léo, il me tutoyait. Je l'ai emmené dans ma petite voiture à l'époque, jusqu'à son hôtel. Il me disait, Catherine, passe me prendre. Voilà, c'était extraordinaire. Je me pinçais tous les jours pour savoir ce qui m'arrivait.
Ah oui.
Mais oui, ça a été un grand moment. Sur la scène des Franco, le concert de Léo en 87, à ses côtés, je dirigeais les chœurs pendant que lui chantait en dirigeant l'orchestre. C'était l'orchestre Ars Nova à l'époque. Voilà, plus tous mes choristes, on était environ 80 sur scène, choristes que j'ai dirigés. Enfin voilà, et puis récemment, si vous voulez, en tant que chef de chœur, j'ai également été sollicitée par le général de l'ENSOA pour la venue du ministre de la Défense. Parce que, en fait, il faut savoir que pour l'inauguration de la place d'armes de l'ENSOA à Saint-Mexan, il fallait faire chanter trois bataillons, c'est-à-dire 720 soldats en même temps, la Marseillaise.
Ah oui, carrément.
Voilà, alors faire chanter, je ne sais pas si vous avez assisté aux cérémonies du 14 juillet, et quand il faut chanter la Marseillaise, en général, ils se plantent tous parce qu'on entend un phénomène d'écho. C'est-à-dire que plus les choristes sont étalés sur un espace qui est grand, hein, comme là, l'équivalent d'un stade de foot, quoi, hein, voilà, plus c'est difficile de faire chanter les gens en même temps. Par conséquent, il n'y arrivait pas. Donc, trois jours avant, je reçois un coup de fil du général qui me dit « Madame Hérault, je sais que vous êtes capable de faire chanter 500 choristes. Est-ce que vous êtes capable de faire chanter 720 choristes ?» Donc, là, j'ai relevé le défi et ça s'est très, très bien passé. J'ai eu, bien sûr, les félicitations du ministre voilà, et de tout le monde. Voilà.
C'est bien pour vous, c'est super.
C'était une belle expérience parce que c'était pas évident. Quand même, faire chanter 720 soldats, la Marseillaise, et en plus de nuit.
Ah oui, oui.
Voilà, et donc, voilà. Mais bon, ça reste, voilà. C'est des expériences multiples, mais je ne peux pas tout vous décrire parce que, voilà, j'ai passé 40 ans de ma vie à diriger, quoi. Mmh. Ou presque.
Tout à l'heure, vous me parlez de Léo Ferré avec le temps. Écoutez.
La mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule.
Très belle mélodie. Hein.
Ah, avec le temps, je l'ai chanté plusieurs fois, évidemment. Je l'adore, j'adore. J'adore Léo, moi, enfin, vraiment, ça fait partie... Là, et pour moi, la musique n'a pas de frontières, c'est ça qui est formidable, c'est que je m'extasie devant une chanson de Léo Ferré, comme devant une chanson de la Renaissance, ou comme devant un grand aria de la flûte enchantée, voilà, de Mozart.
Alors, eh bien, on va faire une pause musicale.
Absolument. Alors, une petite pause musicale, peut-être un petit peu plus longue. Ça, c'est une suite de danse. Les danses à la Renaissance sont très prisées, à la fois par la noblesse et la bourgeoisie. Donc, c'est une succession de basses danses, recoupes et tourdions. Donc, ça commence par les instruments et ça se termine par les voix. Dans une grande gaieté, par une chanson que tout le monde reprend, beaucoup de chorales reprennent, ça s'appelle Le Tourdion, et je pense que beaucoup de gens la connaissent et la reconnaîtront.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM, l'émission Scène de Merde. Je vous rappelle que ce soir, nous sommes avec la musicologue Catherine Hérault, qui nous vient du cours Fondonis, qui nous a présenté déjà une grande partie, mais c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à dire. Rappelez-vous, juste avant la musique, on a parlé de ce fameux La Marseillaise.
Oui, alors La Marseillaise, c'est incontournable, parce que bon, je suis aussi... auditeur, on dit pas encore auditrice, hein, la parité c'est pas encore là, hein, à l'Institut des hautes études de la Défense nationale, merci, c'est l'émotion, voilà, depuis 2014, voilà, je suis intégrée dans ce dispositif et donc j'interviens à l'ENSOA bénévolement auprès des jeunes le mercredi après-midi. Et on définit cette cohorte tous les ans du titre de cadet de la défense. Donc ce sont des jeunes qui font essentiellement du sport, une sensibilisation aux devoirs de mémoire et aussi au patrimoine et aux valeurs de la République. Et donc je les fais chanter, évidemment.
Faire chanter 720 personnes,
oui.
C'est incroyable.
C'était incroyable. C'était incroyable, effectivement, d'être sollicité parce que, effectivement, c'est une technique, la direction de chœur. Ça ne s'improvise pas.
Non.
Et surtout avec un si grand nombre.
Et oui.
Voilà. Et devant 5000 personnes, voilà, comme au Francofolie, c'était pareil aussi, hein. Voilà. Donc, c'est pas, voilà, c'est un métier. C'est un vrai métier que d'être chef de chœur. Et j'ai voulu faire profiter de mes compétences, hein, de chef de chœur au plus grand nombre. C'est pour ça que je m'inscris beaucoup aussi dans l'engagement citoyen, un de mes autres piliers. L'engagement citoyen, c'est le bénévolat, c'est l'associatif, c'est les chorales amateurs, c'est la réserve citoyenne. Voilà, je suis intervenue dans le cadre du service national universel encore, voilà, il y a à peine 10 jours, la semaine dernière même, je crois, c'était.
Il y a quelques jours de ça, oui.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'interviens auprès des jeunes beaucoup parce que pour moi, l'important, c'est cet autre pilier, la transmission. La transmission de nos valeurs. Alors, je suis aussi titulaire de l'éducation nationale. J'ai enseigné pendant presque 40 ans en collège et lycée, en option de spécialité musique et histoire des arts. Et donc, les jeunes, je connais bien. Je les aime beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les jeunes, tout simplement, parce que c'est un vrai sacerdoce quand même que d'enseigner encore aujourd'hui, et peut-être encore plus, mais c'est ce qui fait notre avenir, les jeunes de demain. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que, en fait, pour activer tous ces piliers, j'ai un seul outil, c'est ma voix. Et j'ai eu la chance d'avoir un don dès la naissance, c'est une belle voix. Et cet outil, je m'en suis servi toute ma vie pour faire passer les gens de l'ombre à la lumière. Et j'aimerais qu'on écoute justement un des extraits que j'ai enregistré de Memory de Katz, qui retrace l'histoire de ce personnage dans Memory, justement de Katz, cette jeune femme qui veut passer de l'ombre à la lumière et qui n'a pour ça que sa voix.
Hélène FM.
Red lip, girl, light her.
artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
J'espère que vous passez une excellente soirée à l'écoute d'Hélène FM. Avec notre invitée de ce soir, c'est la musicologue Catherine Hérault qui est avec nous. Ça va pas Catherine, tout va bien ?
Ça va bien, on est en bonne compagnie.
Et il faut quand même savoir que juste avant, c'était vous qui chantez.
Absolument, bien sûr, oui, j'ai enregistré cet extrait en studio, mais je l'ai donné sur scène de très nombreuses fois aussi.
Et comment ça se passe sur scène, ce titre ? Quel est le public quand il est en face de vous ? Comment vous le ressentez ?
Ah, il faut se donner. Quand on est sur scène, on ne peut pas tricher. Voilà, notre meilleur salaire, j'allais dire, c'est le public. Mmh. C'est la réaction du public, l'émotion que l'on peut transmettre. Et la voix, on ne peut pas tricher. Il faut véritablement être bien dans son corps, être bien dans sa tête pour être bien dans sa voix. Et donc, moi, je fais de chaque chanson une œuvre d'art, un tableau. Quand je suis sur scène, je me donne absolument, totalement. Et c'est pour ça qu'en amont, enfin, comme le savent tous les interprètes, tous les chanteurs, il faut beaucoup de travail, beaucoup de techniques pour que ça semble facile.
Il faut savoir que le titre qu'on a entendu, c'est une reprise.
C'est une reprise, c'est extrait de Cats, la comédie musicale, la célèbre comédie musical, Memory, donc.
Et la version originale, c'est celle-ci, écoutez. Let the memory live again. Barbara Streisand.
Eh oui, c'est pas n'importe qui non plus. Voilà, mais oui, mais bon, ce sont des modèles aussi, voilà, oui.
Alors, on va passer maintenant du côté de votre livre. On accueille avec vous ce soir Pierre Brandao. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Stéphane.
Avance le micro. Voilà. Donc Pierre Brandao, donc vous êtes là avec nous pour nous parler un petit peu. Enfin, le livre que vous avez dans votre édition, Jean de Lattre, c'est ça ?
Oui, Jean de Lattre, oui, tout à fait.
Donc, expliquez-nous un petit peu cette rencontre avec notre invitée, la musicologue Catherine Hérault.
Eh ben, un jour, je reçois un coup de téléphone de Catherine, qui cherchait à éditer son livre Jean de Lattre. Je vais lui laisser la primeur quand même de la genèse de son roman, parce que c'est elle, quoi. Et nous, on a vu tout de suite l'opportunité dans cette édition d'ouvrir une nouvelle collection découverte, qui nous manquait un petit peu dans notre maison d'édition et d'Edibri. Et donc on a plongé complètement dedans et avec un beau challenge puisqu'il fallait réaliser le livre dans un temps quasi record et ma foi en un mois et demi on a réussi. Ça n'a pas été très simple mais ça a été aussi super intéressant. Moi j'ai appris pas mal de choses dans le livre. Bon, je suis un passionné de poésie comme les auditeurs et auditrices d'Hélène FM le savent pour avoir déjà présenté certaines choses. Et bien ça, on voit que rien n'est lié au hasard. Tout se rejoint et dans l'ouvrage de Catherine, eh bien, on va y retrouver effectivement des fondamentaux de la littérature et surtout de la manière de concevoir la littérature et plus précisément la poésie. Donc j'ai bien envie de, rien que là devant tout le monde, de la remercier pour cet apport supplémentaire qu'elle m'a apporté.
Alors Catherine, expliquez-nous un petit peu comment vous avez écrit ce livre, comment vous êtes découverte.
Oula, c'est une longue histoire, c'est l'histoire de la recherche en musicologie, bien sûr. Alors en fait, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre ? Parce que je voulais transmettre de façon facile quelque chose de très scientifique. En gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la recherche en musicologie, c'est quelque chose de très pointu, de très exigeant, de très scientifique. Et arriver à sortir de ce carcan qu'est le scientisme, entre guillemets, ou l'entre-soi des musicologues, pour essayer de faire connaître ce grand compositeur du XVIe siècle et montrer comment, en fait, ces artistes ne sont pas si éloignés de ceux d'aujourd'hui. Et en fait qu'on a beaucoup à apprendre également à la fois de leurs œuvres mais aussi de leur mode de vie. Et il faut arrêter de croire que les sensibilités d'hier sont différentes de celles d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour faire bénéficier au plus grand nombre les mélomanes, bien sûr, mais aussi les artistes professionnels qui trouveront dans cet ouvrage foule de renseignements sur les œuvres de ce grand compositeur. Et comme l'a dit très justement Pierre, pas que les œuvres musicales, mais aussi les écrits, puisque à l'époque, on est à la fois auteur, compositeur et interprète. Il ne faut pas l'oublier.
Bien sûr. Alors, ce livre s'appelle Jean de Lattre, comme on l'a dit tout à l'heure, une histoire par rapport à la musique, hein, c'est ça ?
Alors, Jean de Lattre, c'est le nom de ce grand compositeur qui a des surnoms. Et il a des surnoms parce qu'il est de petite taille.
Et donc, tout ce qui est petit, c'est mignon. Hein.
Voilà, c'est ça, on va dire ça. Et donc, on le surnomme Petit Jean. Et ce sont deux surnoms, donc de Lattre et Petit Jean, très courants au XVIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle, il est resté dans l'ombre pendant très longtemps, parce que, en fait, il y a énormément de surnoms qui sont donnés à cette époque-là. Les noms de famille ne sont pas fixés. Et de Lattre, ça viendrait de latere, en latin, ça veut dire le cadet. Tout simplement, donc le dernier né de la famille, voyez.
D'accord.
Donc voilà, donc il y a eu beaucoup de confusion d'attribution de ces œuvres, donc mon travail a consisté à faire toutes les bibliothèques d'Europe pour exhumer tout son corpus, c'est-à-dire les éditions du XVIe siècle, dont je mets quelques extraits dans l'ouvrage en facsimilé. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que quand j'ai fait ce travail de recherche, l'ordinateur n'était pas monnaie courante dans les études, et il n'y avait pas tous les moyens de Google, de recherche, voilà, qu'on a aujourd'hui, qui facilite énormément le travail des chercheurs aujourd'hui. Alors après, il faut se méfier de tout ce qu'on trouve quand même sur Internet, hein, tout n'est pas vrai. Mais donc moi, mon travail, c'est un travail d'archéologue de la musique, comme je l'ai dit. Et donc, à la fin de cet ouvrage, vous trouverez absolument tous les lieux où se trouvent les sources à partir desquelles j'ai construit cet ouvrage. Et puis, je me suis intéressée aussi à son contexte social, historique et politique. Alors, il faut savoir que Jean de Lattre, il est à la fois au service des princes, en particulier l'oncle de Charles Quint, et il à Liège, et il côtoie à la fois les grands artistes de la cour de Liège, mais aussi de la cour de Bruxelles, où siège Charles Quint avec sa tante Marie de Bourgogne. Et donc, il côtoie les plus grands, mais en même temps, il est marié, père de deux enfants, et il va quand même, étant donné qu'il a vraisemblablement une très belle voix, lui aussi, il va maître de chœur, on dit maître des chœurs, maître de maîtrise, ça s'appelle sucentor en latin, des plus grandes collégiales et cathédrales de Liège en particulier. Et donc, normalement, pour être sucentor, hein, donc le référent des chants religieux et pour gérer tous les offices, tous les jours et pour les grandes fêtes, il faut être clair, il faut être religieux. Or, lui, il est marié, père de deux enfants. Donc, ça veut dire qu'il était très compétent. Donc, il a une vie un peu singulière, c'est ce que je décris dans cet ouvrage. Et cette vie entre la cour et les moines et la vie religieuse, qui est quand même très complexe, parce qu'en plus il a la charge de l'éducation des jeunes enfants, puisqu'à l'époque, ben, on commence à s'inscrire dans les maîtrises à l'âge de 6 ans. Et il faut savoir que on recrute les gens, les jeunes enfants, hein, comme on le voit dans le film Farinelli, je crois, on recrute les jeunes enfants sur les places publiques. On leur fait chanter des chants, et ceux qui ont les plus belles voix sont achetés carrément aux familles. Et parce que les familles, ça leur fait tout simplement un revenu. Et donc on paie les familles, On prend les enfants, on les met dans des internats comme ça se passe encore aujourd'hui. Hein. Il faut savoir qu'il y a encore des endroits où on forme les musiciens dès l'âge de 6 ans en internat, où ils suivent des cours de formation générale, hein, plus des cours de musique très très poussés. Ça existe en Suisse, ça existe en France, hein, il ne faut pas croire. Ça existe surtout dans les pays anglo-saxons d'ailleurs. Hein. Et donc on les forme. Et pour devenir chanteur. Et donc, ils sont payés jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après la mue, donc, comme vous le savez, soit ils réintègrent la famille, mais à ce moment-là, il n'y a plus de revenus pour la famille. Soit on accepte qu'ils muent, mais ils perdent en statut, on va dire. Ils sont au service des chanoines. Soit, après au 17e, on verra qu'il y a eu l'usage de la castration pour qu'ils gardent leur voix d'enfant. Et ça, c'est une autre histoire.
C'est vrai que c'est très intéressant de connaître ce livre. Tout en vous écoutant, donc Pierre Bonreau nous a montré à la vidéo ce livre. À l'intérieur, il y a des notes, il y a tout. Pour les musiciens, c'est superbe. Franchement, c'est du bon travail.
Oui, je crois. Merci.
Un puits de science, Catherine.
Voilà. Alors, c'est vrai que la musique, c'est intéressant. La musique, on transmet plein de choses. On peut dire aussi que la musique, ce sont des fleurs, comme la rose.
Ah, comme la rose. Comme la rose, c'est le tube, on pourrait dire, de Jean de Lattre, puisque c'est une chanson polyphonique à quatre voix, hein, comme c'est l'usage. Chanson savante, hein, attention, il faut bien faire la distinction entre les chansons savantes et les chansons traditionnelles populaires. C'est une chanson de cour. Dont l'écriture est semblable à celle de la musique religieuse, sauf que celle-ci, elle a subi une influence sur laquelle je reviendrai, c'est l'influence italienne et française. Il compose pour la première fois cette chanson en 1560, elle est publiée en 1560 et elle va être rééditée jusqu'en 1643, donc bien longtemps après sa mort, ce qui prouve que elle était non seulement très belle dans sa facture musicale, mais également dans son texte. Il faut savoir que ce texte fait le pendant à la fameuse Ode à Cassandre de Ronsard, « Mignonne, allons voir si la rose », composée en gros en 1552. Et là, Jean de Lattre s'inspire, je pense, de cette poésie de Ronsard. Donc il était, bien que franco-flamand, très au fait des chansons parisiennes et de ce qui se passait à Paris. Et je vais vous lire le texte de « Comme la rose ». Comme la rose se perd en peu d'espace, ainsi le teint et la beauté mondaine en peu de temps se consomment et se passent, et n'a pour vrai qu'une durée soudaine. Or donc, mamie, en beauté tant humaine, de ta beauté et naturelle grâce, prenons plaisir et liesse certaine, avant le temps qu'un tel bien nous défasse.
Hélène FM.
Hélène FM.
Hélène FM.
Oh,
bien dans l'émission Scène Ouverte avec notre invitée, la musicologue Catherine Hérault, qui nous vient de Courson, je rappelle, accompagnée par Pierre Brandao, qui est avec nous ce soir pour cette émission. Alors, Catherine, je crois que vous voulez intervenir aussi par rapport à ce titre.
Ah, ben comme la rose, et puis évidemment la référence à Ronsard, à Surgères, on est en plein dedans.
Exactement, parce que les studios se trouvent dans 5 rue Ronsard.
Voilà, 5 rue Ronsard, l'école, je crois qu'ils portent le nom à Surgères ouais. également, et puis le rond-point.
Avec la main.
La main et la plume. Voilà, bon, c'était un petit clin d'œil.
Voilà.
Alors, cette œuvre, effectivement, de Jean Delattre, s'inspire véritablement, sur le plan compositionnel, subit les influences italiennes et françaises. Et pourtant, on est à Liège, à côté de Bruxelles, dans un pays où ce qu'on appelle le style imitatif syntaxique prédomine, c'est-à-dire un style où la pensée dans l'écriture musicale est plutôt horizontale, issue de l'école de Josquin des Prés. Il n'est pas interdit de penser d'ailleurs que Jean Delattre puisse avoir été élève de Josquin des Prés notamment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Delattre compose en fonction de son auditoire, c'est-à-dire que véritablement, il fait des œuvres de commande, évidemment. Et donc, s'il s'adresse à la cour, eh bien, pour plaire à une certaine, par exemple, à la cour de Charles Quint, on va continuer ce qui est dans la tradition de l'écriture, dans le style imitatif syntaxique. Pour les clercs et les religieux, c'est la même chose. Et alors que pour les danses, pour les soirées un peu plus mondaines, on va dire, eh bien, on écoutera cette œuvre comme La Rose ou comme bien d'autres.
Hein. Bien sûr.
Voilà. Alors là, je vais vous parler un petit peu aussi, justement, de ce style plus imitatif que l'on retrouve essentiellement dans la musique religieuse, qui est décrit dans cet ouvrage que j'évoque, à travers les motets, mais aussi les lamentations. Jean Delattre a écrit ce qu'on appelle des lamentations. Alors, c'est en fait une succession de pièces religieuses qui correspondent à la période de Pâques. Ce qui va donner lieu plus tard à ce qu'on appellera les passions de Jean-Sébastien Bach. C'est exactement la même lignée, c'est-à-dire que les passions de Jean-Sébastien Bach n'auraient sans doute pas existé si les lamentations, peut-être même de Jean Delattre, en passant par Henri Dumont, n'auraient pas existé. Il y a une grande filiation que j'évoque à la fin de cet ouvrage entre le XVIe et le XVIIIe siècle, justement, à travers la musique religieuse. Donc là, nous allons entendre un extrait de Qualis est dilecta mea, qui est un motet qui prend en compte quand même, j'allais dire, la modernité du moment, à savoir ce qu'on appelle le madrigalisme. Le madrigalisme en musique, c'est exprimer les sentiments par un motif mélodico-rythmique. Alors là, on rentre déjà, vous voyez, dans les détails un petit peu musicologiques, c'est-à-dire que je l'évoque également voilà, de façon épisodique, à la fois pour la musique savante, profane et la musique religieuse dans cet ouvrage. Mais c'est intéressant de comprendre à quel point l'allégorie, le symbolisme musical est important dans l'écriture et dans l'interprétation. Voilà. Qualis est dilecta mea.
Qualis est dilecta mea. Thank you.
Voilà un petit extrait de ce titre qu'on pourra retrouver bien sûr sur le site internet de Eddie Libris et puis sur votre Facebook. Hein.
C'est oui, ça. Tout à fait, tout voilà. à fait. Alors, il faut pas croire, la vie d'un musicien de, donc, à cette époque-là, c'est un homme comme tout le monde, j'allais dire, hein. Voilà, il aime bien aussi rire, s'amuser, aller dans les tavernes, boire un coup de vin clairé ou de bière, comme c'était l'époque. Et puis aussi, s'adonner à des chansons un petit peu coquines. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va écouter un autre extrait d'une de ces chansons qui n'est pas de Jean Delattre, parce qu'il y a eu très très peu d'enregistrements de Jean Delattre, puisque voilà, c'est la première monographie sur ce grand compositeur, et donc il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de ses œuvres. Mais j'ai choisi Clément Jeannequin, « Il était une fillette », que Jean Delattre reprend dans ce qu'on appelle une fricassée. Alors, les fricassés, c'est une espèce de pot-pourri, on appellerait ça aujourd'hui, de chansons qu'on s'amuse à faire chanter à tout le monde dans les tavernes le soir. Voilà. Et donc, c'est cette petite chanson, « Il était une fillette » de Clément Jeannequin, illustre bien cette ambiance des tavernes du XVIe siècle.
Alors, on l'écoutera dans quelques petites minutes, à la fin de cette émission.
D'accord. Alors.
Ça sera vraiment encore la surprise pour l'éditeur qui nous écoute.
D'accord.
Pour terminer cette émission, les projets, c'est quoi maintenant, très rapidement ?
Oula, les projets, bien, c'est toujours la musique. C'est en particulier, comme je vous l'ai dit, en tant que spécialiste du secret dans l'écriture musicale, je me suis investi beaucoup dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach et surtout de Mozart. Voilà, et donc j'ai fait des conférences sur mes recherches et mes trouvailles, j'allais dire, puisqu'on peut encore en faire dans l'écriture des œuvres de Mozart. Et donc ma prochaine publication, je pense que ce sera sur mes découvertes justement à travers certaines œuvres. Au sein de certaines œuvres de Mozart sur cette pensée philosophique qui transpire à travers son écriture.
Alors, on va comment préciser que si on désire suivre votre actualité, vous avez le Facebook.
Ah oui, j'ai un Facebook, oui, bien sûr, oui, j'ai une page Facebook sur me voilà.
Voilà, donc n'hésitez pas donc à contacter notre invitée ce soir, Catherine Hérault.
Mettrai le lien aussi, votre lien.
Voilà, la musicologue, donc on vous a présenté les sept piliers ce soir. Je pense qu'on n'a rien oublié, si, peut-être un.
Hein. Bon, famille, travail, recherche, pédagogie, transmission, rayonnement, engagement. Non, je crois qu'on a tout balayé rapidement, bien sûr, voilà. Parce qu'on pourrait y passer la journée, mais bon, on n'a pas le temps.
Et on a présenté votre premier livre, Jean Delattre. Voilà.
Jean Delattre, grand compositeur franco-flamand du XVIe siècle, contemporain qui vit une période très difficile, hein, la période des guerres de religion. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais quand même, il faut se rendre compte que quand même être artiste à cette époque-là, c'est pas évident. Et donc, il est confronté, si vous voulez, il est au service des princes catholiques. Et à la fin de sa vie, il va passer dans le camp des réformés avec Guillaume d'Orange. Donc c'est ça qui est passionnant dans la lecture de cet ouvrage que je vous recommande bien volontiers.
Et on peut le retrouver donc sur le site Association Edilis.
Edilibris. À la librairie Déa Lagnor également, et à l'abbaye aux Dames également.
Et puis dans toutes les librairies.
Et dans toutes les librairies.
Et dans toutes les bonnes librairies, par commande, évidemment.
Voilà.
Et merci à Pierre. D'avoir accepté cette gageure, parce que c'en était une.
C'est clair.
C'est vrai que ça a été un beau challenge. Je pense qu'on a tous les deux progressé.
Et ça fait un très beau livre.
En tout cas,
et
merci, un très beau livre. Merci beaucoup, Catherine Hérault, d'être venue ce soir dans les studios, bien sûr, accompagnée par Pierre Brandao, qui est avec nous depuis plusieurs émissions, par rapport aux différents projets, pour différents éditeurs, différents écrivains que vous avez.
Également. À chaque fois que je reçois un nouvel auteur, je m'enrichis grâce à ses propres connaissances. On a tout à apprendre des autres et réciproquement. Donc, c'est un bonheur.
Voilà, merci encore.
Merci
vous
à
souhaite
vous.
Une bonne continuation et à très bientôt.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Merci à vous.
Quant à moi, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission Scène 20, émission culturelle, comme vous le savez, où nous recevons des artistes dans le domaine culturel, musiciens, théâtre, écrivains. Enfin, tout ceci, c'est votre émission. Voilà, je me tais car il me reste très peu de temps. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission Scène 20. Bonne soirée. Merci encore de votre fidélité. Au revoir. Art.
artistes, chanteurs, comédiens.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet. Comédien.
Découvrez les nouveaux talents d'ici dans Scène Ouverte, le magazine de la culture régionale.
Avec Stéphane Cousinet.
LNFM, l'esprit local.
Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin, compte sur mes rêves d'enfant. Je laisse aux autres les deux mains, moi je prends que les maintenant. Si c'est pour penser la fin.
LNFM, l'esprit local. LNFM, 102.9 à Saintes.
On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête.
Sur lnfm.com.
Presto tutto, presto tutto, sarà più bello. Addormentati, bambino, e stonitoro. Presto tutto, presto tutto, sarà più bello. Addormentati,
LNFM.
Bambino,
89 FM,
a New York.
FM
à Surgère.
À Surgère.
C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher. C'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier. C'est oui ou bien
LNFM.
C'est non.
89 FM à Rochefort.
À Rochefort.
À toi on avait dit. Quand on était des types, qu'on ferait une équipe et qu'on irait vers les zéniths.
LNFM, l'esprit local.